Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Vous accueillez un instant l'émission, Maître Sophie Mongeon. Comment
allez-vous? C'est encore Louis Funès qui fait l'introduction.
N'est-ce pas? Alors, Maître Mongeon, comment allez-vous?
Ça va, Sophie?
Oui, ça va très bien.
Il faut que tu prennes l'accent, Gilbert.
Non, mais moi, j'ai de la misère avec ça. Bonjour.
Non, mais ça va très bien. Les Canadiens ont gagné hier.
Oui,
donc,
ouais, tellement les bonnes humeurs.
Je sais pas si en cours ça se répercute. Mais tant que le juge, les avocats, ils sont des gros fans du Canadien, puis on arrive au printemps, là, je sais pas si c'est plus détendu dans la salle d'audience. Ça se peut-tu, ça?
Ouais, ça se peut, c'est sûr. Ça se peut.
Ou il arrive 5 heures, il dit, ouais, on peut-tu avoir un verdict rapide, là, parce qu'il faut que je m'en aille au Centre Bell, là, il y a une game.
Prendre un petit apéro 9-4-10.
Ouais, c'est ça, exact.
Donc, on revient sur le sujet de la semaine dernière. On parlait de l'équité des hommes, des fans dans le monde du sport. T'as une histoire, là, directement pour le livre des règlements, l'émission, qui se passe en mort ici. Dans le PWC, une équipe de filles. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de filles. Fait qu'on lui dit, ben, c'est le PWC. Embarque avec les gars. Ben, ils font la saison. Et là, en demi-finale, ils battent les gars. Alors, l'équipe de filles de PWC, waouh, ça ramasse en finale. Pas tout à fait.
Non, l'équipe qu'elle a battue, c'est eux, finalement, qui vont représenter la région dans la finale.
Pourquoi?
Ben, parce que, dès le départ, étant donné que c'était une ligue féminine, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la région, ils ont décidé de faire, de mélanger les femmes avec les hommes.
C'est correct, ça?
Ben oui, absolument. Sauf
c'est
que...
C'est du PWC, là, on
s'entend. Oui, c'est ça. C'est pas du Bantam 2B ou du Bantam 2A. Donc, on sait qu'il y a peut-être moins de mise en échec, moins de contact physique ou quoi que ce soit. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les filles ont battu les gars et ils ont éliminé. Mais finalement, c'est les gars qui vont représenter à la finale régionale.
Les gars, je sais pas comment ils se sentent. Là. Ils viennent de se faire éliminer, mais ils vont en finale.
Parce qu'ils voulaient pas avoir de femmes là, quoi?
Ben, je pense que c'est une question tout simplement de physique ou de gabarit. Alors,
non, mais PWC,
ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi.
Ils ont 12 ans, là.
Donc, Hockey Mauricie veut finalement que la meilleure équipe se rende en finale et ils se disent la meilleure équipe, c'est une équipe d'hommes, même si elle vient de se faire éliminer par l'équipe de femmes.
Ben, la réponse qui a été faite par la directrice administrative de Hockey Mauricie, c'est ainsi que le règlement est fait. Ah. Donc, c'est pour ça qu'on a la chronique, le livre des règlements, hein, pour en discuter.
Il faudrait bien le changer, ce règlement-là. Je pense qu'on va arriver à cette conclusion-là. Il faudrait le changer. Là, je comprends, on lit le texte, puis elle le savait dès le départ. Mais dès le départ, là, on n'est pas dans le concret, on ne devait pas s'attendre à ce que l'équipe performe autant. Mais elle l'a fait.
Mais l'année passée, en Atom, il avait quand même bien réussi aussi. Là. Fait que c'était la même équipe un peu là, qui avait continué. Là. Puis Danielle Sauvageau a été interrogée. Oui. On l'a questionnée parce qu'on sait que c'est une revendicatrice là, des droits féminins au hockey. Mm-hmm. Puis elle disait, comme moi, je le disais la semaine passée, c'est un manque d'équité. Là. Alors, ça me ramène à est-ce qu'il faudrait faire quelque chose pour qu'il y ait de l'équité au niveau du sport aussi? Là.
Ça fait brasser cette histoire-là. J'ai l'impression que c'est pas terminé. Là. L'équipe de filles, là, je sais pas quand ils jouaient la finale, puis si elles ont beaucoup de temps devant elles pour se faire justice, mais les médias brassent beaucoup. Ça a sorti sur Radio-Canada hier, et ça fait jaser. C'est un débat en même temps. Les gens disent « Ouais, mais là, lisez le texte, là, c'était prévu, puis de toute façon, ils vont en Coupe Dodge. Ouais, » mais ça change pas le fait qu'elles se sont qualifiées pour la finale,
ouais,
et qu'on donne les perdants, on
si
les met en
finale. Si c'est correct de les faire jouer durant la saison, puis durant les séries, pourquoi c'est pas correct d'aller en finale?
Exact.
Il est arrivé un cas similaire là, de discrimination sexuelle. C'est Léa Marie Vincent, c'est une jeune escrimeuse de 12 ans, également de la Mauricie, qui avait été qualifiée lors de la finale régionale en sabre, en terminant deuxième contre des garçons qui avaient 15 ans. Et on lui a pas permis de se rendre à la finale, étant donné que c'était pas une catégorie mixte. Alors encore un autre, elle avait battu les gars là, en cours de route. Là. C'est pas comme si tout d'un coup on lui dit tu vas jouer contre des garçons puis t'es pas capable. Elle avait battu des gars de 15 ans.
L'autre sujet qui touche le livre des règlements cette semaine, on a vu ça en Côte-Nord, le pauvre type qui a frappé un arbitre là, pendant un match. Un match amical, notamment.
Oui, c'est un monsieur quand même de 45 ans et c'était une ligue amicale. Écoute, l'enjeu était de 1 700 $, là. Donc, c'est pas grand-chose.
C'est un tournoi d'old-timers, puis il y avait 1 700 $ au bout de la ligne. Fait que 100 $ par joueur, à peu près.
Ben, à peu près. Et puis, si on regarde la vidéo, on voit qu'il l'a pas manqué. Là, tu vois que l'arbitre, il tombe. Puis, tu vois qu'il y a peut-être une perte... de connaissances, en tout cas temporaires soit-il. Là. Et là, ça m'a amené à dire, coudonc, ça arrive-tu souvent, ça, ouais, de la violence auprès des arbitres?
Ben, t'as trouvé une jurisprudence?
Ben, j'en ai trouvé quelques-unes, une plus connue que les autres, puis ça m'affecte beaucoup parce que mon fils a été arbitre les deux dernières années, puis j'ai vu là, les parents crier après lui, puis j'étais dans les estrades, puis j'avais juste le goût, moi, d'aller crier après les parents qui criaient après mon fils.
Quand on est loin et qu'on voit juste un chandail zébré, on a l'impression que c'est des adultes, là, mais c'est pas... Souvent, t'as des jeunes là-dedans.
Beaucoup d'adolescents qui arbitrent.
Exactement, ouais. C'est un petit revenu aussi. Là.
Ah, mon fils, Jérémy, il a 14-15 là, quand il fait ça. Là, il va avoir 17.
Avec le casque puis le chandail, il a l'air plus vieux que son âge.
Mais les parents, ils perdent le contrôle quand c'est le temps de quand il y a un peu de bris.
Il y a un appel qui va pas sur l'autre côté. Oui. Ils sont pas contents, puis ça dégénère. Puis on dirait qu'ils s'encouragent entre parents. Là, hey, on va crier après l'arbitre. Là.
Bon, on l'a vu avec les racistes de Saint-Jérôme. Pas tous, mais les quelques-uns racistes de Saint-Jérôme, on l'a vu des fois en foule, là, on vient pas très, très intelligent. Là.
Oui, mais je pense que Saint-Jérôme a pris des mesures maintenant hein, contre ça. Hein. Effectivement, maintenant, là, dès qu'il va y avoir de la chicane dans les estrades, les gens vont être expulsés. Je pense que ça a rendu les choses un peu plus alertes. Mais là, ce qu'on voulait parler, c'est du cas de Kessie. Anthony Kessie, oui. En 2002, c'était un joueur de hockey professionnel puis était étudiant en éducation physique. Puis dans le temps des fêtes, là, il est allé voir une équipe de hockey de sa ville. Puis à la fin, l'arbitre avait refusé un but à l'équipe locale. Et là, ça l'avait provoqué la colère des spectateurs. Donc lui, en sortant de la patinoire, Kessie avait frappé l'arbitre d'un coup de poing en plein visage.
Il l'attendait dans le stationnement, là. Aïe, aïe. Non, faut pas maîtriser trop ses émotions. Et c'est dans ce temps-là, c'est pas ça de là, c'est pas dans le feu du moment qui est pas plus excusable, mais en plus il y a eu le temps d'y penser. Là.
Ben oui, puis l'arbitre a eu une grosse commotion cérébrale sévère là. La défense de Kessie, c'est qu'il avait bu beaucoup d'alcool ce soir-là. Et là, la poursuite.
Lui, il était juste à la game de même là. Il regardait la game de même. Là.
C'est un spectateur comme les autres.
Parce que lui, c'est un joueur de hockey, Anthony Kessie là. Tu sais, il a joué junior majeur puis il a joué. Ça là. Ouais.
Donc, la poursuite suggérait une peine d'emprisonnement avec sursis et la défense de Kessie, c'était d'avoir une absolution inconditionnelle. Parce que lui, il disait, moi, si j'ai un casier judiciaire, je pourrais plus travailler aux États-Unis. Puis, ça va atteindre ma carrière de joueur de hockey.
Ça.
Et finalement, le juge a dit, écoute, ton statut de joueur de hockey professionnel aurait dû l'emmener à être un spectateur capable de comprendre et de respecter la décision de l'arbitre ainsi que de lui-même. Et là, la peine a été quand même sévère parce qu'à ma connaissance, je pense que ça l'a mis fin à sa carrière hein, de hockey, Kessie.
Oui, exactement.
Non, hockey DB s'arrête en 2002, là, justement.
Non, c'est ça. Il jouait peut-être dans East Coast League ou quelque chose comme ça à ce moment-là, puis il n'a pas pu retourner aux États-Unis.
Un casier judiciaire, exactement.
Non, mais c'est ça, mais il y avait
pas d'exemption pour les joueurs, là.
Hey, tu vas voir un match de hockey, tu te packes la fraise puis tu frappes l'arbitre. Là.
Exact. Mais frapper l'arbitre sur la glace, des fois on se dit sur la glace, là, ça va t'exempter de tous les dossiers possibles.
Mais j'ai des exemples lorsque c'est arrivé sur la glace, mais pour terminer avec Kessie, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu 2 ans où il ne pouvait pas communiquer avec la victime. Ça, c'est pas, ça, c'est pas plus grave
standard,
que ça. Oui, mais il ne pouvait plus se trouver dans un endroit où il y avait des matchs de hockey sous la surveillance d'arbitres de Hockey Québec.
Oh.
Donc, à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi sa carrière...
Fait que s'il y a des enfants, un petit gars, là, mettons, qui tombe puis qui joue au hockey, il peut pas aller voir son gars jouer. C'est intelligent quand même. Hein?
Mais c'est limité quand même à 2 ans, là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Là.
Il était jeune quand même pour les enfants, mais...
Non, mais tu sais, je comprends.
Il va en avoir un jour.
Ouais, mais ça peut être
un bel exemple.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
On avait une autre cause intéressante en 99, c'était Sévigny contre Champagne. Ça, c'est pas au niveau criminel, c'est plus au niveau civil. Éric Sévigny est un arbitre en chef lors d'une partie de hockey. Il expulse un joueur. Le père de ce joueur n'accepte pas la décision. Il saute sur l'arbitre, l'agrippe par le collet et le menace en disant « Aimerais-tu que je fasse la même chose que tu as fait à mon gars? » Ce qui est arrivé, c'est que les deux parties ont commencé à se battre et même la foule s'est rouée sur eux. Et le juge a répondu « Écoute, toi, le juge a répondu, le monsieur qui l'a frappé a 35 ans, le jeune a 16 ans, puis lui exerce ses fonctions sur la patinoire. Fait que même si un spectateur est en désaccord avec la décision de l'arbitre en chef ou une décision de l'arbitre de ligne, faut que tu te comportes comme une personne normale. Tu peux pas dire à cause
de l'émotion.
L'émotion, effectivement, ouais. Que ça n'a pas les mêmes règles qu'à l'extérieur. Ouais. On en avait parlé d'ailleurs. Là. Puis, tu sais, c'est inconcevable que les arbitres doivent rester au centre de la patinoire pour se protéger des parents mécontents dans les gardiens. Alors, dans les gradins, pardon. Donc, ce dossier-là a fait en sorte que le monsieur Champagne a été condamné à 500 $.
C'est souvent dans ces sommes-là, hein. C'est pas astronomique, hein.
Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une autre cause, effectivement, là, D.A. et Armstrong, âgé de 17 ans. Dans le fond, le parent est arrivé puis il a demandé au jeune de se présenter sur le bord de la bande. Il l'a interrogé, il l'a pris au collet puis a sonné un coup de poing au visage.
Ça, c'est le père, là.
Oui, le père.
Il avait, arbitre, il avait 17 ans, là.
17 ans, le père n'a 49 ans.
aïe.
Il était beaucoup plus grand et plus corpulent que le demandeur.
Aïe, en donc, tu vois.
Donc,
dans il y a des rendez-vous, chez le, il y a des rendez-vous chez le psy qui se perdent. Les gens gardent beaucoup de haine en dedans d'eux, des fois. Là.
Donc, effectivement. Puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit, mon Dieu, si on était aux États-Unis, on en parlait tantôt, Gilbert, avant de rentrer en onde, on aurait parlé peut-être une dizaine de mille de dollars. Ouais. En bout de ligne, là, la seule chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu 1000 dollars pour les indemnités pour blessures, humiliations et inconvénients et 2500 en guise de mesures dissuasives de dommages exemplaires. Fait que, tu sais, une fois qu'il arrive des choses de ce genre, est-ce que ça vaut la peine de se donner tout le trouble pour poursuivre devant les tribunaux civils?
On n'est pas une société qui a une grande notion de responsabilité. Hein, il tombe un viaduc sur du monde, c'est de la faute à personne.
Oui, mais ça, c'est ça, les victimes du viaduc de la Concorde, je les ai représentées d'ailleurs auprès de la SAC.
Ah oui, tabarnouche. Écoute, puis elle nous fonde sur les routes, là.
Ben, c'est ça, c'est...
C'est de la faute à personne, quand il y a quelque chose. Alors que c'est toujours de la faute à quelqu'un, on va s'entendre, là, parce que le Saint-Esprit n'agit pas sur nos routes, là, une société laïque. Là.
Ben, donc, ça fait un peu en sorte qu'on a l'impression que notre responsabilité civile au Québec est très limitée par, justement, les no faults, là, comme tu dis si bien, LP. On a-t-il encore un petit peu de temps?
Oui, absolument. Okay. En terminant.
Je vous raconte vite une histoire. Il y a un jugement qui a été rendu par la Cour suprême, et là, vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise, qui s'appelle Godbout Garganciel. C'est l'histoire d'un monsieur qui conduit un véhicule. Il y a un accident de la route, et lui, il y a OnStar dans son auto. Donc, c'est une GM.
Comme
là,
Benoît. Benoît, il y a ça, lui. Quand il n'y a plus de la vitre, il les appelle.
Et le monsieur, il y a un accident. OnStar appelle régulièrement la police puis dit, écoute, il est là. La police ne le trouve pas. Donc, ça a pris quasiment 48 heures avant qu'il le retrouve.
Ah.
Oui. Donc, le monsieur, il dit, OK, moi, je veux poursuivre le corps de police parce que là, il y a eu une négligence grossière. On s'entend là-dessus. Ouais. Le jugement de la Cour suprême est allé dire, nous, en tant que société, là, on s'est doté d'un système de no fault, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre entre nous s'il y a des accidents. Donc, le monsieur n'a pas pu poursuivre le corps de police et c'est la Société de l'assurance automobile qui était responsable de payer tous les dommages. Mais s'il avait été trouvé rapidement, ce monsieur-là, là, il aurait subi beaucoup moins de dommages. Je pense qu'il était amputé d'une jambe. Il aurait pu garder sa jambe.
Mais c'est de la faute à personne.
Ouais. Donc,
incroyable.
Ouais. Donc, c'est un peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Les arbitres, on voit de plus en plus de causes, là, quand même, là, parce que on en a parlé de 2-3, mais j'en ai au moins 4-5.
Fait que l'arbitre qui s'est fait sloguer, lui, ça va être un 1000 maximum, là. C'est ce qu'on comprend dans la jurisprudence, parce que, veut pas, ça laisse des traces, là. Quand il y a un jugement comme ça, bon, on va fouiller. Ça va être en 76, le 22 septembre, Denis Comte-Quentin, que tu nous as amené à la Cour supérieure, ben, c'est 1000 $ que le demandeur a été transporté à l'hôpital de Nakona, transféré à Saint-Sacrement. On parle de coups de patin dans les parties génitales.
Oui, c'est le premier jugement qu'on a trouvé quand même. Donc, ça date de belle lurette, là, en 76. Puis vraiment, là, je prends le temps de lire ce que le juge a dit. Il s'agit là de l'une des manifestations qu'il importe de bannir du sport du hockey. Les voies de fait sur les personnes d'un arbitre en charge d'une partie constituent non seulement un acte illégal, mais également un acte des plus répréhensibles. Là, on est quasiment 30 ans plus tard, puis on a eu notre histoire de gars, de pauvre arbitre à Mauricie aussi, là.
1000 piastres en 76, c'est plus
40
aujourd'hui.
Ans, c'est 42
là,
ans.
Exactement.
Oui, mais en plus, les dommages moraux ont été vraiment plafonnés aussi au Québec. Fait que, honnêtement, aujourd'hui, quelqu'un n'aurait pas plus que ce même 1000 $-là.
Et l'arbitre n'a pas porté plainte encore, là, c'est à Côte-Nord. Là.
Non, mais le vidéo a été quand même transmis au service de police. Et quand tu des plaintes aux criminels, tu n'as pas besoin qu'il y ait une plainte comme telle. Le procureur général peut de lui-même choisir de déposer des accusations.
Maître Mongeon, toujours un plaisir.
Merci.
Sophie.
Et bonne semaine. Bonne française. Hein? Bye bye. Au revoir. Bye.